Pour commencer, je vous propose juste de confier notre soirée à Saint-Joseph, Sainte Thérèse d'Avila, qui est vraiment une des mères des spirituels, une mère du Carmel, réformée, voilà, dit de Saint-Joseph, que les âmes d'oraison en particulier lui doivent un culte tout filial, que celui qui n'a pas de maître pour lui enseigner l'oraison prenne ce glorieux saint pour guide et ne risquera pas de s'égarer. Saint-Joseph, nous te confions notre soirée. Toi qui as passé une grande partie de ta vie à fixer ton regard avec foi sur Jésus. Et nous aussi, à trouver ce temps pour l'aimer, pour vivre à ses côtés et nous nourrir de lui. Voilà. Donc, la prière, de manière générale, c'est vraiment la respiration la plus profonde de notre âme. C'est un lieu où Dieu nous communique sa vie. On parlait un petit peu à table, mais même pour rejoindre d'autres personnes qui se posent des questions, il y a vraiment un appel de fond que Dieu a déposé au fond de nous pour le trouver et pour nous unir à lui. Parce que ça va être le lieu où on pourra vivre cette transformation d'amour pour devenir vraiment à son image, pour devenir qui on est vraiment. Et voilà, sur ce chemin de la prière, voilà, je vais vous parler plus spécifiquement de l'oraison, qui se caractérise pas par extérieurement par une forme de silence. Et une prière silencieuse qui est extrêmement libre, en fait, qui ne s'arrête pas à des techniques ou à des méthodes ou à des passages obligés ou à des paroles comme peuvent l'être d'autres prières. Donc c'est vraiment avant tout l'expression de deux amours qui se cherchent et voilà, le Père Marie-Eugène dit, voilà, citer, hein, se mettre à l'école des saints du Carmel, c'est la libre expression de deux amours qui se rencontrent et se donnent l'un à l'autre. La définition la plus connue de l'oraison, celle de Sainte Thérèse d'Avila, qu'on va essayer de suivre et de commenter. Voilà, l'oraison n'est à mon avis qu'un échange d'amitié, où l'on s'entretient souvent, seul à seul, avec ce Dieu dont on se sait aimé. Alors on va prendre les différents termes. Donc, un échange intime d'amitié, où on s'entretient souvent, seul à seul, avec ce Dieu dont on se sait aimé. Donc d'abord, un échange. Donc, comme on disait, il y a deux amours, mais ces amours, ils ne sont pas du même ordre. Il y a l'amour de Dieu qui est premier, il y a cet amour qui nous tient, et nous, on va essayer de répondre. Donc, Dieu, lui, il se donne lui-même, il nous communique sa vie, son amour, et nous, on va aussi lui donner quelque chose de nous-mêmes. On se pose la question de avec quoi est-ce qu'on arrive. Mais il accueille vraiment quelque chose de nous. Alors voilà. C'est toute la question de venir et de déposer nos joies, nos peines, nos souffrances. Voilà. Et aussi cette part d'amour qu'on reçoit nous-mêmes de lui, voilà, en réponse à son propre amour. Ensuite, c'est un échange intime. Donc on n'est pas dans quelque chose d'un déploiement extérieur, c'est vraiment quelque chose de recueilli, d'intérieur, au plus profond de nous-mêmes. Et donc, c'est pour ça que Sainte Thérèse d'Avila va dire que dans l'oraison, en fait, voilà, on ne cherche pas à parler beaucoup, mais à beaucoup aimer. Voilà, il n'y a pas besoin de beaucoup de paroles, en fait. C'est intime. Comme avec un intime, on fait pas des grands discours, quoi. On va à l'essentiel, à la relation, dans sa simplicité. C'est un échange intime d'amitié. Donc une amitié, c'est quelque chose de très personnel, en fait, où on apprend peu à peu à se connaître, on chemine ensemble. Une amitié, c'est quelque chose qui grandit, qui est appelé à grandir toute notre vie. On découvre de nouveaux trésors dans l'ami. Voilà. Le fait aussi que dans l'amitié, voilà, on ne calcule pas. Souvent, on a nos prières, voilà, on est tous un peu comme ça, hein. On calcule. qu'est-ce que je veux obtenir de Dieu. dans l'amitié, il y a quelque chose de gratuit, en fait. Enfin, en tout cas, qui doit aussi cheminer de plus en plus vers la gratuité, qui ne calcule pas, qui se donne pour l'autre, qui cherche sa joie, en fait. Et de plus en plus, notre prière, elle est appelée à être dans cette gratuité d'amitié. Et donc, on s'entretient avec Dieu. Alors justement, dans l'oraison, parfois dans la prière, on parle beaucoup, on cherche à remplir un peu. Donc de fait, hein, comme je disais, on va amener quelque chose de nous-mêmes. Mais dans cet entretien, d'abord, c'est Dieu qui nous parle. Et il faut se mettre dans les dispositions pour accueillir sa parole. Et donc, ça, c'est la question d'introduire le temps d'oraison. On reviendra sur les étapes un peu, mais avec la parole de Dieu, en la mettant vraiment au centre. C'est Dieu qui nous parle d'abord. Parce que sans ça, nos paroles risquent de ronronner et de pas, de rester à la surface des choses et surtout de pas répondre à l'appel que Dieu nous lance. Donc, commencer par, dans cet entretien avec Dieu, commencer par l'écouter très profondément. Et ensuite, on pourra avoir une réponse qui sera ajustée. Plus ajusté en tout cas à son amour. Puis dans cet entretien, il y a l'enjeu, comme avec des amis, hein, deux amis, d'essayer de se disposer à se présenter en vérité avec ce Dieu qu'on aime. Et donc là, c'est d'arriver avec pas en jouant un rôle en fait, mais en se présentant dans nos pauvretés, nos limites, avec tout ce qui fait nos vies. Et ça, c'est un défi d'accueillir, comme la petite Thérèse, avec joie toute notre petitesse et nos pauvretés. Mais précisément, l'oraison, ça peut être le lieu d'une vérité. Et la condition pour que Dieu se donne, c'est bien sûr cette vérité. Donc, c'est un échange intime d'amitié. On s'entretient souvent. Donc là, ça fait partie du défi, hein. C'est la régularité. Thérèse de l'Enfant Jésus a dit l'oraison, c'est un cœur à cœur qui dure nuit et jour. Ça c'est l'horizon, hein. Mais souvent quand même, si c'est un échange d'amitié, un échange avec un ami qu'on aime vraiment, il sera vraiment régulier. Ça pose la question, peut-être même certainement du quotidien, au moins, et même ensuite, même de petits moments dans la journée, ou même si c'est quelques un petit temps de silence où on va se raccrocher à Dieu et le retrouver. Donc, on s'entretient souvent et seul à seul. La Thérèse d'Enfant Jésus, encore, elle va dire « À des amants, il faut la solitude. » Pour pouvoir réellement s'aimer, être à l'autre, il faut la solitude. Pour être pleinement attentif à l'autre. Pour être disponible. Pour pouvoir accueillir ce qu'il veut nous dire. Et donc ça passe par des moyens concrets, hein. Le fait de mettre à l'écart tout ce qui va nous disperser. Que si pendant l'oraison je reçois un SMS, moi j'avais prévu le temps d'oraison, ça attendra, même si je suis très pressé de je sais pas d'avoir des nouvelles d'un tel ou un tel. Enfin voilà, c'est tous ces petits lieux qui seront en fait des lieux de vérification aussi de la qualité de notre amour et de notre disponibilité. Et Dieu évidemment se donnera à la mesure de notre disponibilité. Et puis un point capital. Cet échange d'amitié avec ce Dieu dont on se sait aimé. Et en quelle mesure est-ce qu'on se sait aimé de Dieu? Et là, c'est pareil, c'est le chemin de toute une vie, mais notre raison, elle sera un peu à la lumière de notre foi. C'est vraiment un acte de foi dans cet amour de Dieu, surtout quand c'est plus dur, qu'on ne sent rien. Est-ce qu'on croit réellement que Dieu nous aime et se communique et se donne à nous dans ce temps d'oraison. Pour soutenir un peu notre foi, petite citation du bienheureux Père Marie-Eugène. Voilà. Toujours bon à se rappeler, hein, de reprendre aussi la parole des saints parfois pour nourrir notre temps d'oraison. Dieu est amour, il nous a créés par amour, il nous a rachetés par amour, il nous destine à une union très étroite avec lui. Dieu, amour, est présent dans notre âme, d'une présence surnaturelle, personnelle, objective. Il y a en activité constante d'amour, foyer répandant constamment sa chaleur, soleil ne cessant de diffuser sa lumière, fontaine toujours jaillissante. Oui, donc on va y revenir, hein. Il y a ce Dieu qui nous aime infiniment à tout instant. En fait, le problème, c'est que nous, on n'est pas présent à cet amour. Mais cet amour, il est toujours là. À table, quand on discutait, en fait, il était là, il vous aimait infiniment. Mais en fait, on n'était pas forcément, peut-être que vous l'étiez, mais présent pour capter et accueillir ce qu'il est et ce qu'il veut répondre. Et c'est tout le défi de l'oraison, c'est de se rendre présent à Dieu tel qu'il est et comme il veut se donner. Ça demande de la foi. Et donc, voilà la définition. Maintenant, comment est-ce qu'on va entrer dans cette relation avec ce Dieu qui est infini, et qui est insensible, qui est imperceptible? Voilà, comment est-ce que le contact va se faire? Peut-être la première chose, c'est de poser l'acte de foi sur où est-ce que je vais trouver Dieu. Et là, beaucoup de saints ont été ont leur vie réellement bouleversée, et je crois que ça peut être le cas pour chacun d'entre nous, dans la mesure où on réalise qu'il est d'abord présent, en fait, dans l'âme du baptisé, en fait, d'une manière toute personnelle. Il est là avec toute sa grandeur, c'est toute la Trinité Sainte qui est là. Alors, notamment Sainte Thérèse d'Avila a été complètement fascinée par ça, cette grandeur de Dieu qui ne peut contenir mille mondes, et il vient s'enfermer en notre âme. Voilà. Aujourd'hui, on peut penser à... On sait qu'il y a 100 milliards de galaxies. Et en fait, y compris dans les 100 milliards de galaxies, il n'est pas présent avec la même qualité personnelle. Il maintient tout ça dans la vie, mais il n'est pas présent comme père, comme ami, comme tout intime, comme il est en fait dans simplement notre cœur. Ça, c'est un mystère. Enfin, c'est vraiment extraordinaire. Et donc, Sainte Thérèse d'Avila va donner ce conseil. Essayez de réaliser, essayez parce qu'on n'en finit pas d'essayer, hein, qu'il y a au-dedans de vous un palais d'un prix infini, tout bâti d'or et de pierres précieuses, digne enfin d'un si grand seigneur. Et croyez, car c'est la vérité, que vous pouvez beaucoup pour que l'édifice soit d'un prix très élevé. Y a-t-il plus bel édifice qu'une âme pure et pleine de vertu? Et plus celles-ci sont grandes, plus les pierres resplendissent. Enfin, songez que dans ce palais habite ce grand roi, qui a daigné être votre père, et qu'il se tient sur un trône du plus haut prix, votre cœur. Il reviendra dans d'autres textes là. Donc, cet édifice... Pour accueillir le grand roi, il y a aussi tout un enjeu dans l'oraison, à avoir une certaine pureté de vie. Parce que ce grand roi, c'est quand même mieux de le recevoir dans des appartements qui ne soient pas trop souillés, quoi. Qu'il soit propre, à l'aise, qu'il y ait de l'espace. Et puis que, de fait, il soit visité, quoi. On imagine le roi de l'univers, en fait, juste, il est là sur son trône, et puis lui, il trône, hein, de toute façon, peu importe, mais personne vient le voir. C'est quand même un peu triste, quoi. L'image est juste là pour nous aider à trouver la motivation, pour nous mettre en mouvement, pour aller le chercher. Et justement, Thérèse d'Avila, elle va prendre l'image d'un château, comment notre âme est un château. Avec Dieu qui est dans la plus profonde des demeures. Et l'oraison, en fait, c'est la porte du château. C'est le lieu par lequel on rentre pour essayer de rentrer dans les profondeurs de notre âme pour aller toucher Dieu. Et souvent, en fait, dans ce château, on peut être carrément à l'extérieur du château. C'est le cas de beaucoup de nos contemporains, en fait. C'est de rester tourné vers ce qui se passe à l'extérieur, comme si tout le réel, tout ce qui avait l'importance, c'était... C'est un mouvement d'intériorisation. Et plus on cheminera dans l'oraison, plus on deviendra des âmes intérieures qui prennent contact avec ce Dieu qui vient en nous. Saint Paul, hein, le temple de Dieu est sacré, et ce temple, c'est vous. Voilà, c'est des affirmations de foi qui reposent sur l'Écriture. Donc, Dieu est vivant en nous, mais... Dans la rencontre avec lui, il y a ce que je disais, il y a ce premier mouvement de l'échange qui est d'abord un mouvement de Dieu. Et ça, on le voit bien dans l'Écriture, qui est toute l'histoire de la révélation de Dieu qui s'adresse aux hommes, et dans un second temps, la réponse de l'homme à Dieu. Et c'est très vrai aussi dans la prière, en fait. On peut prendre des épisodes bibliques hein, qui nous aident à comprendre ça, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Des épisodes fameux, hein, comme le buisson ardent. Voilà. Cet appel que Dieu adresse à Moïse. L'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse regarda. Le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit, « Alors, je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas ?» Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» Il dit, « Me voici. » Au fur et à mesure, on voit la réponse de l'homme qui s'est laissé fasciner par ce Dieu qui l'attire. Ce sera aussi notre chemin de peu à peu nous laisser fasciner par Dieu dans sa parole et se laisser fasciner par un Dieu vivant qui nous attend, qui est un Dieu personnel. Et vraiment, la raison sera vraiment ce lieu de la rencontre et ce lieu de la prosternation, le lieu de l'adoration. Ensuite, Moïse qui a fait cette expérience de Dieu, il se prosterne, il s'incline. Et puis ensuite, intéressant aussi à Moïse, cet appel en vue d'une mission. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui commence à se transformer dans son cœur, et par cette rencontre avec ce Dieu vivant, ce temps d'intimité, il va y avoir une préparation pour une mission d'église, pour servir, aimer, pour être renouvelé dans la grâce qui est la sienne. Ok. Autre passage, par exemple, celui, il y en a énormément évidemment, hein, mais rencontre de Jésus avec l'aveugle de naissance, Jean 9. Voilà. Il y a cet homme qui ne voit rien. cette initiative de Dieu, un peu surprenante, hein. Jésus prend l'initiative d'aller guérir. Il va y avoir un chemin de foi où Dieu lui-même en fait va peu à peu lever les obstacles en fait pour que il le reconnaisse dans sa nature de sauveur. Et justement qu'en allant à lui, c'est Dieu soit connu en Jésus. Et le Père va se révéler en Jésus. Et il va enlever nos aveuglements pour que peu à peu on parvienne à cet acte de foi qui touchera Dieu tel qu'il est. En Jésus qui nous sauve, pour nous tourner vers le Père. Donc il y a cet appel de Dieu qui est premier, qui nous entraîne à la foi. D'ailleurs Jésus va demander hein, à l'aveugle de naissance, arrivé à un moment, crois-tu au Fils de l'homme ? Voilà. Il va y avoir cet acte de foi, je crois Seigneur. Donc enjeu, cette réponse de foi à l'appel premier de Dieu. Hébreux 11, 6. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car pour s'avancer vers lui, il faut croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Voilà. Toutes les étapes dans l'oraison vont ici nous conduire à ce moment central qui va être justement la prise de contact avec Dieu dans la foi. Qui est vraiment le lieu de la rencontre, la manière dont on peut le toucher, le rejoindre. Donc on peut prendre un peu l'image d'une randonnée pour fixer un peu ces différentes étapes. Donc on va commencer par, comme quand on prépare une randonnée, par essayer de voir quel est le but. Et le but, c'est simple, c'est Dieu lui-même. C'est la rencontre, c'est d'être transformé en Dieu. C'est de devenir pleinement à son image. Et puis ensuite, on va regarder l'itinéraire, par où on va passer. En fait, on va un petit peu aussi commencer à remplir notre sac à dos. Et donc là, c'est toutes les étapes, justement. On va prendre ce temps pour creuser la parole de Dieu, pour s'en nourrir, pour avoir comme des points d'appui pour aller à sa rencontre. Quelque chose qui nous touche, qui nous émeut, qui nous met en mouvement. Et puis, on va poser un cadre. On va choisir un temps, un moment dédié à la rencontre. On voit l'itinéraire. On sait que voilà, c'est une randonnée, est-ce que c'est une randonnée en un quart d'heure ou, voilà. Mais on pose un cadre et un chemin. On prend les moyens pour arriver au but. On va se prendre un bâton ou des chaussures de randonnée. Bah là, ça va être de prendre les moyens pour se recueillir. Donc ça sera peut-être de prendre, déjà de s'aménager un petit oratoire, de prendre un refrain méditatif, quelque chose qui nous prépare, qui nous dispose à pacifier un peu tout ce qui nous disperse. En tout cas, surtout pas à aller tout de suite dans l'oraison comme une tâche, dans une succession d'autres tâches. Et puis, on va commencer à se mettre en marche. Et on va marcher, je ne vais pas tirer trop loin les comparaisons, hein, mais en tout cas, pour avoir l'énergie de l'oraison, d'une certaine manière, c'est avant tout pas une œuvre personnelle, c'est l'œuvre de l'esprit en nous. Donc ça, faut l'accueillir dans la foi. C'est-à-dire que ça risque d'être particulièrement sec si on essaye d'y aller avec nos pensées. Hein. Donc il y a cet acte de foi en Dieu qui est là, et vraiment demander la grâce de l'Esprit. La grâce de l'Esprit qui nous permet de toucher Dieu. Et ensuite, une fois qu'on s'est disposé, qu'on a fait ce premier acte de foi, ben voilà, on va pouvoir rester dans le contact, dans un contact vivant et nourri avec Dieu. Là, on est déjà en fait presque tout de suite au sommet. On va poser cet acte de foi qui touche Dieu. Je crois en toi, mon Dieu, mon Seigneur. On va pouvoir s'appuyer sur une parole de l'Écriture. Et on va pouvoir rester en fait sur ce sommet, dans la présence de celui qui nous aime et que l'on aime pauvrement, et demeurer avec lui. Voilà. Et après, il y a tout un enjeu en fait là pour durer, parce que souvent on a des distractions, très vite on part à droite à gauche. Et la première chose en fait, c'est d'avoir foi dans la grâce de grâce de chrétien en fait, que même si en fait on ne sent rien, Dieu lui il sent tout. En tout cas quand on pose des actes de foi vis-à-vis de lui. Là on peut penser à l'évangile de Jésus avec l'hémorroïde. Vous savez cette femme là, Jésus est pressé de toutes parts par toute une foule, et puis à un moment donné il tressaille, qui m'a touché. En fait, Jésus, il tressaille. On ne se rend pas forcément compte, hein. Mais il tressaille. Quand on pose un acte de foi dans notre prière, il tressaille. Il tressaille de joie, il tressaille d'allégresse. Il ne peut pas résister, en fait. Il y a une vie qui se communique, qui sort de lui, qui jaillit, et qui nous guérit, qui nous fait du bien. Il nous donne sa vie et son amour. Et ça, c'est certain, en fait. C'est certain, c'est l'évangile, c'est une certitude de foi en fait. Il ne peut pas résister en fait à un acte de foi. Le problème souvent c'est qu'en fait on a du mal à le croire. On le croit faiblement, tiennement. Et ça sera justement aussi tout l'apprentissage du chemin d'oraison de plus en plus y croire. Et c'est à la mesure de notre foi que Dieu se donnera. Cette foi en fait il faut la réactualiser dans la prière. Et donc si jamais par exemple il y a un passage de l'évangile qui nous a nourris ou... il va y avoir un moment où on va bifurquer, on va partir ailleurs, on va être pris par nos distractions. Bah, peu importe, on revient sur notre acte de foi, on reprend contact avec Dieu, et lui est là, il nous attend. Et en fait, il n'y a pas à s'inquiéter de ces distractions, il y a simplement, très posément, en fait, à refaire un acte d'amour. Si 100 fois dans notre oraison, on s'est détaché de Dieu, 100 fois refaire le choix de Dieu en posant l'acte de préférer revenir à lui et poser notre regard sur lui plutôt que de rester dans nos distractions, ben c'est ça qui le touche en fait. C'est ça qui le touche vraiment. Voilà. Je regarde combien de temps il me reste. 5 minutes. Quelque chose qui nous motivera aussi à persévérer, c'est cette certitude aussi de foi en fait dans l'œuvre que Dieu va réaliser en nous, au travers de ces contacts répétés, de ce silence qu'on lui offre. Déjà, il y a une connaissance de plus en plus intuitive, une transformation à son image, donc il nous fait de plus en plus vivant de son amour, plus simple. Surtout, il nous transforme à l'image de Jésus. En fait, notre raison, elle nous identifie de plus en plus à Jésus qui vide l'Esprit Saint, qui nous tourne vers le Père. Au début, parfois, la prière peut être centrée sur une personne divine ou dans un espèce de flou un peu indéterminé, mais de plus en plus, il y a cette transformation qui fait qu'on est réellement identifié au Christ. Puis petit à petit, d'ailleurs, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut se challenger un petit peu, de plus en plus, c'est d'introduire une part de silence. Notre raison, elle va se faire de plus facilement recueillie, de plus en plus facilement silencieuse. Mais encore faut-il le vouloir et commencer à s'en donner les moyens. Parce que le silence, au début, ça fait peur, et puis c'est facilement rempli par des distractions et tout ça. Il ne faut pas s'en inquiéter. Faire cet effort et puis faire confiance à Dieu pour que, petit à petit, il nourrisse ce silence. C'est le lieu dans lequel il peut se donner à plein. Voilà. Bien sûr, cette oraison sera le lieu d'une infusion d'amour. Puis ça sera aussi le lieu peut-être d'une rencontre aussi de plus en plus évidente avec l'Église. Le fait qu'on n'est pas seul à prier, on n'est jamais seul à prier. C'est toujours le lieu d'une communion avec d'autres croyants qui prient en même temps que nous. Et pas en fait dans une fin juste de sanctification personnelle. En fait, ce qui se joue dans l'oraison, c'est évidemment Dieu nous sanctifie, il nous communique son amour, mais c'est toujours en vue d'une mission d'Église. Voilà. Il nous prépare pour notre vocation, pour l'assumer pleinement avec lui, uni à lui. Cette oraison, progressivement aussi, elle va déborder dans notre journée. De plus en plus, ça sera facile de le trouver au fur et à mesure de la journée. Et si on se dispose avec des vrais temps qu'on lui offre chaque jour. Et puis l'oraison arrivera à un moment où elle se fera de plus en plus contemplation. Et là, dans la contemplation, c'est-à-dire qu'on sort d'une oraison qui passe, on va dire, par forme de réflexion. La mise en jeu de nos facultés, notre intelligence reste habituellement importante, même s'il y a des temps de silence. Et ben là, c'est vraiment comme l'image d'un oiseau. Il y a l'oiseau qui, au début, qui bat ses ailes pour s'envoler. Il faut quand il s'arrête de battre des ailes, il plonge. Sauf si il arrive à choper le courant d'air ascendant. Et là, il plane, quoi. Et ça, c'est l'Esprit Saint, quoi. C'est à un moment donné, il y a cette grâce de Dieu qui... Dieu prend de plus en plus de place, on lui offre de plus en plus de place. Et à un moment donné où c'est lui-même... Alors, on prend nos moyens, hein, on va toujours méditer l'Évangile, on va toujours travailler la parole, mais à un moment donné, on va surtout rester dans sa présence, dans le silence, et accepter que ce soit lui qui fasse tout. Ça demande un vrai acte de foi. C'est pas forcément simple de croire que réellement. Donc quand on commence à avoir une espèce de dégoût pour méditer, dans ce cas-là, c'est bien de prendre un accompagnateur spirituel et pas rester dans la nuit un peu tout seul. Voilà. Il me reste 2 minutes. Simplement, vous encourager, évidemment, à installer un temps d'oraison, quelle que soit sa durée, au quotidien. Vraiment, cette fidélité, elle est bonne pour vous et elle touche Dieu. C'est vraiment, si vous voulez lui faire plaisir, si vous voulez vous sanctifier, installer vraiment à un moment de la journée, essayer de garder toujours ce cap-là, cette fidélité, quoi qu'il arrive. Ensuite, avoir conscience aussi que c'est réellement un combat spirituel, hein. Étant donné que cette prière est d'une fécondité magnifique, bah ça va être l'enjeu de combat en fait. C'est-à-dire que bah, les mauvais esprits vont toujours essayer de vous faire penser qu'il y a quelque chose de plus urgent, de plus indispensable, de plus. Donc il y a vraiment un combat mené dans la foi de non, Seigneur, je crois que tu m'attends envers et contre tout. Là, je suis fatigué, je crois. Bah, même si je suis malade, je pourrais prier peut-être 5 minutes différemment et rejoindre Jésus aussi, ça c'est un des conseils de Sainte Thérèse d'Avila. Il n'y a pas de disposition, même si on est en colère, bah prendre un passage de l'évangile dans lequel Jésus est en colère lui aussi, et y aller avec ça. Il n'y a rien en fait qui nous empêche d'aller à l'oraison. On le fera peut-être pauvrement, en gémissant, fatigué, mais en fait non. Il y a vraiment ce cap et ce combat avant tout, ce combat de foi, pour voilà, l'installer et vivre cette rencontre d'amitié. Voilà. Je ne prétends pas couvrir du tout le sujet en une demi-heure, mais voilà, l'idée c'était de pouvoir avoir une petite introduction, après de pouvoir avoir aussi un petit temps de questions, peut-être réponses, et puis ensuite, l'idée c'était aussi vous permettre, même si beaucoup d'entre vous sans doute ont déjà pris ces temps-là, mais dans la foulée un petit peu d'avoir un petit temps de silence et de vivre ensemble un temps d'oraison. Puis je vous laisserai des petites choses pour nourrir aussi la suite après. Voilà. D'abord, ce qui peut nous rassurer, Sainte Thérèse d'Avila, ou pas d'ailleurs, Sainte Thérèse d'Avila dit, jusqu'au septième demeure, jusqu'au sommet de la vie spirituelle, il y a des distractions en fait. Donc déjà, il y a un moment donné, il faut l'accepter et de vivre la prière avec ça. Ensuite, c'est comment est-ce qu'on les gère. De fait, quand même, il y a un recueillement qui se fait et normalement, les distractions sont petit à petit moins habituelles. Donc la question c'est surtout comment est-ce qu'on les gère et puis comment est-ce qu'on introduit petit à petit ce temps de silence. Mais en soi il n'y a pas une technique qui ferait qu'à un moment donné il y aurait moins de distractions. Il y a pas mal de choses qui peuvent aider. De fait, le recueillement, la qualité de la manière dont on se prépare pour aller à l'oraison. Le fait aussi de ne pas introduire de distractions par notre vie. Je veux dire, par exemple, si jamais on regarde des films très violents, par exemple, il peut y avoir des images qui nous reviennent. L'oraison est très intéressante, en fait, parce que tous les bruits de notre vie remontent souvent à l'oraison. Et en fait, c'est une indication providentielle dont on peut faire usage aussi pour avoir une forme d'assaise en dehors de notre vie. C'est-à-dire, s'il y a des choses qui nous préoccupent, quelque chose qui revient de manière régulière, soit c'est quelque chose dont on transforme en prière, par exemple une personne, je sais pas, qui nous préoccupe et tout ça, au lieu que ça, on le referme sur nous-mêmes, on le remonte vers Dieu et on en fait le sujet de notre prière. Ou alors peut-être, je sais pas, là, c'est peut-être qu'en fait il y a un pardon à poser ou quelque chose c'est interroger aussi ces distractions-là pour en faire un chemin en fait de vie avec Dieu. Mais je crois, enfin voilà, en tout cas, vaut mieux abandonner l'idée de se dire ma prière serait bonne à partir du moment où j'aurais plus de distractions. Non, ce qui est bon, c'est de voir comment est-ce qu'on les gère et on continue le chemin avec nos distractions, malgré tout.
D'autres questions ?
vas-y.
Je me demande quelle est la place à accorder à la méditation de la parole de Dieu dans l'oraison. Enfin, j'avais cru comprendre, mais je pense que c'était une compréhension trop caricaturale que maison carmélitaine se donnait assez peu de matière, était très contemplative, à la différence d'une manière ignatienne de prier ou même de la Lectio Divina des moines. Mais vous, vous avez régulièrement parlé là, de, qu'en fait il était très bon de se lancer dans le raison en méditant la parole, etc. Enfin, notamment, qu'est-ce que dit Saint-Thérèse d'Avila là-dessus?
Elle dit vraiment, elle a une prière complètement christocentrique. Elle met vraiment Jésus au centre. Hein. C'est, il faut toujours passer par lui. Mais l'idée, c'est pas de rester, on va dire, de revenir sans cesse sur le texte, en fait. L'idée, c'est vraiment de partir de là, mais pour aller à la rencontre vivante. Il y a un moment, on est avec le texte, mais le but, c'est d'aller à lui, quoi. C'est de le toucher, quoi. Donc, c'est d'une certaine manière, c'est la rampe de lancement pour la rencontre. Et quand on commence à prendre la tangente, eh ben, on peut reprendre au cours de notre raison à nouveau la parole de Dieu pour nous remettre dans sa présence. Mais peut-être par rapport à d'autres formes de prière, voilà, ça va pas être une lecture ni en continu sur laquelle on revient sans cesse, ou on essaye pas de dégager énormément de pensées ou de réflexions sur la parole. On cherche à trouver le lieu, ce qui nous saisit, ce qui nous touche au cœur, et d'en faire une occasion de rencontre. Il n'y a pas besoin, ce qui est redit très souvent, il n'y a pas besoin de beaucoup de pensées, en fait. C'est aller à la relation vivante. Il n'y a pas besoin de beaucoup de paroles pour ça. Donc s'il y a trois mots dans l'évangile qui vous touchent, je ne sais pas, j'ai pas d'idée comme ça, mais prenez les trois mots, et puis vous pouvez faire toute votre raison sur ces trois mots-là. Il n'y aura pas. Et Dieu, il ne vérifie pas la qualité de. Vraiment, mais tellement pas. À la beauté de la pensée. Nous, on croit qu'il faut avoir une belle prière selon des canons un peu humains. Et peut-être pour Dieu, la prière d'un enfant qui juste, je sais pas, va faire un baiser comme ça au tabernacle ou un truc comme ça, qui, conceptuellement, c'est zéro, quoi. Mais en termes de pureté et de qualité d'amour, en fait, c'est au top, quoi. Donc c'est un peu ça l'idéal, quoi. C'est de toucher Dieu avec une foi, un contact d'amour de plus en plus pur, simple. Parce que Dieu, il est simple. Nous, on est compliqué. La prière carmélitaine, c'est une prière simple, quoi. Et très libre.
C'est une question compliquée, hein. Spirituel. Bon, je ne suis pas du tout spécialiste, mais je crois qu'un des enjeux, justement, alors entre autres avec le père Marie-Eugène, hein, c'était de. Effectivement, il était sensible au fait qu'il fallait pas oublier la médiation, non seulement christologique, ça c'est évident, mais même aussi scripturaire, alors que par ailleurs, Saint-Thérèse elle-même, elle dit la méditation, c'était pas trop son truc. Et ça a été une grande étape pour elle, justement, d'accepter que ce n'était pas par la méditation, c'est-à-dire avec un usage trop actif des puissances de l'âme, que Dieu la conduisait. Mais il y a derrière des... il y a des grandes questions. Je pense que quand même ta description du début est globalement vraie, en réalité. Hein. Je pense qu'il faut une grande liberté, il faut sentir par où l'Esprit-Saint nous demande de prier. C'est-à-dire qu'il y a... aussi des types spirituels, j'ai envie de dire, des gens qui sont à l'aise avec. Des fois, ça sera le chapelet, et puis bon, ils vont atteindre une grande union à Dieu avec le chapelet, d'autres, ça sera plutôt la Lectio Divina, mais dans un. Comme font les moines, donc. Il y a une étape de contemplation, mais. Ça reste quand même beaucoup plus discursif. Thérèse d'Avila, moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'elle nous apprend. Elle nous apprend à nous déprendre, en fait. Donc, elle nous apprend, c'est comme si elle nous apprenait à éteindre petit à petit. Les interrupteurs de notre âme, alors c'est compliqué parce que éteindre l'interrupteur, c'est comme moi qui agis. Alors c'est pour ça que c'est par l'esprit que ça se fait. On éteint d'abord la raison, et puis ensuite il y a la volonté. Alors il y a encore, mais il y a ce qu'elle appelle les affections. Ça, c'est très beau quand on est dans cette étape là. On sent vraiment que l'esprit produit en nous des actes d'amour de Dieu. Et à la fin, il y a la contemplation. Là. Il y a débat chez les spécialistes pour savoir est-ce qu'il y a deux types de contemplation ou une seule. Moi, je ne vais pas rentrer dans ce. Mais de fait, c'est on est dans un silence. C'est très extrêmement difficile à décrire quand on ne l'a pas vécu, mais c'est. On est dans un vide complètement plein. On est dans un silence complètement habité par la parole. Et quand on a goûté ça une fois dans sa vie, on a le souvenir jusqu'à son dernier souffle, en fait. Mais c'est une manière de prier. Alors, il y a des gens qui ça convient pas. Il y a des gens qui ça convient pas du tout. Et dans ce cas-là, il ne faut pas se forcer. Enfin, moi, c'est. En tout cas, je pense qu'il y a des gens qui sont plus à l'aise avec Saint Ignace, plus à l'aise avec. Il y a un bon livre, moi, qui m'avait. Je ne sais pas si vous avez un vieux livre, je suis sûrement pas. Plus du tout à la mode. Notre conférencier, en fait. Et moi qui m'avais bien débloqué, c'est un livre d'un anglais, alors c'est dans les années 20, je ne sais plus quoi, c'est le père Eugène Boylan, ça s'appelait les étapes de l'oraison mentale, parce qu'à l'époque on appelait ça comme ça, mental, semaine, c'est au sens augustinien, c'est pas. Moi ça m'avait beaucoup aidé, c'est exactement la métaphore que vous preniez, celle du chemin, hein, qui est très traditionnelle, mais les étapes de l'oraison mentale, et de savoir en gros, c'est exactement ce que fait Sainte Thérèse d'Avila de manière magistrale. Dans le château de l'âme, hein, mais c'est, on arrive à voir où est-ce qu'on en est un petit peu sur le chemin, et donc faut pas aller plus vite que l'Esprit Saint, faut pas aller plus lentement, faut essayer de marcher du même pas que lui, et donc les quatre étapes, hein, méditation, affection, contemplation acquise et contemplation infuse, ça nous aide quand même, c'est une grande aventure de l'expérience de Dieu, hein, ça, l'oraison carmélitaine, moi je trouve que c'est ça le jeu. Pour moi c'est vraiment expérience vivante de Dieu.
C'est vraiment un chemin. C'est vrai qu'au début, c'est normal qu'il y ait quelque chose qui mette en jeu davantage nos facultés, qui soit davantage méditatif. Mais vraiment, et peut-être, surtout pour des Français, des Occidentaux, on reste très souvent dans la raison. Et là, encore une fois, ça nous raccroche à quelque chose vraiment d'un acte de foi que. Celui qui rend notre prière efficace, féconde, belle, enfin, c'est l'esprit. Et il faut apprendre à lui laisser de la place. Quoi. Et c'est quand même ça sur le chemin, ce qui est le plus. Ça dépend peut-être des personnes, hein, pour moi, ce qui est le plus difficile. Et de croire dans le silence qu'il agit, et qu'il agit à plein. Alors qu'en fait, on a l'impression que, en fait, il se passe des choses et notre prière est. Voilà, et rempli quand on agit. Mais quand Dieu agit beaucoup plus efficacement dans le silence, la discrétion. Et parfois, justement, précisément dans la contemplation, dans quelque chose qui va être confus, indistinct. On n'a pas de mots, mais c'est là où ça donne à plein.
On n'est ni concentré, ni dissipé. C'est très frappant, on sent très bien, on n'est absolument pas concentré comme sur disant il faut que je résolve tel problème, tel problème, mais on n'est absolument pas dissipé. C'est vraiment, on est. Un sens, voilà, moi le sentiment que j'ai, c'est d'une certaine manière, c'est sur cette terre, c'est ce qui se rapproche le plus peut-être de la vision de Dieu au ciel. Hein, donc, ça, je crois que les maîtres de prière, donc, Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix, sera encore plus beau au ciel, mais on peut déjà un peu goûter ça, goûter.
C'est vrai, c'est l'oraison, c'est un commencement quand même, c'est cet échange d'amour pour lequel on est fait dans la vie éternelle. Le problème, c'est que Dieu, lui, il se donne à plein, mais nous, on n'est pas encore souvent pleinement disposés à le recevoir à plein. Quoi. Mais c'est justement tout le chemin... Qui nous prépare vraiment pleinement pour la vie éternelle. On commence notre activité d'amour